Nous continuons dans notre série c'est plus que seulement savoir, c'est de le vivre. Notre phrase clé, la vie en Christ, c'est plus que le connaître comme sauveur. C'est de vivre chaque jour en reconnaissance, en comptant sur sa grâce et son aide pour nous transformer dans un témoin vivant de sa vie en moi. Le verset biblique qui vient avec, c'est « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Si je vis maintenant dans la chair, je le vis de la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et croyez-moi, je peux le vivre là qu'on a su, peut-être vous ne savez pas déjà, mais cet lieu aux États-Unis nous a dit la réponse était négative. Voilà. Donc cela amène une déception, d'accord, je vous ouvre mon cœur, une déception, et parfois Satan utilise ces différents moments de déception parce qu'on est plus sensible. Il y a comme un peu, on dit, on baisse la garde, d'accord, et pour lancer ces dards de feu dans la tête. Et ces derniers dards de feu, c'est dire, bon, c'est, tu vois Joël, ça sert à quoi de suivre Christ? Ça sert à quoi de rêver? Et ce matin, je me suis trouvé en luttant fortement avec ces pensées, ces dards de feu, si on peut dire comme ça, de dire, lâche tout, ça ne sert à rien. Donc, priez pour moi. Priez pour moi parce que ça devient de plus en plus et vivant, ce qu'on vient de lire. D'accord, pour prier pour moi aussi. Alors, mais ça vient aussi avec ce qu'on va discuter ensemble parce que jusqu'à maintenant, Jean va nous faire comprendre de quel amour, la magnitude ou l'impact que l'amour de Dieu a dû avoir dans notre vie. Et comme cela doit être évident, quand nous, on a une relation avec les uns et les autres. Mais avant d'arriver à cela, j'aime bien toutes les séries et comme on dit en français, polar, de policiers, c'est ça? Polar ou policière? Policier, pour là, c'est plutôt les bouquins, n'est-ce pas? C'est ça, ouais. Et j'aime bien parce que, évidemment, au tout début, ils mettent une problématique. Et à chaque fois, il faut que les enquêteurs se cassent la tête pour trouver une solution. Soit c'est par épisode, ils terminent, ou soit c'est tout au long d'un film pour arriver à la fin. Mais ce que me frappe, c'est que ils sont dus. C'est pas simple. Un enquêteur, il ne devient pas un enquêteur parce qu'il aime être enquêté. N'est-ce pas? Il prend le temps d'apprendre comment enquêter. Quelles questions poser? Et à chaque fois qu'il passe de plus en plus d'enquêtes, qu'est-ce qui se passe? Lui, il apprend. Il peaufine et affine sa façon de réfléchir pour après être de plus en plus efficace. Jean va faire exactement la même chose avec nous. Il nous dit, on ne va pas devenir des enquêteurs, mais il nous dit, écoutez, je vous demande d'être attentif. Alors, il ne va pas nous donner un stick comme un film, mais il va dire, je vous encourage. En Jean chapitre 4, je vous encourage. Je vous encourage à quoi? La première chose, c'est à démasquer. On va lire. Et 1 Jean, chapitre 4, verset 1 à 6. 1 Jean 4, verset 1 à 6. La Bible dit la chose suivante. Bien-aimés, n'ajoutez pas à la foi tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, ou vient de Dieu. Et tout celui qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, et celui qui c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez déjà vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui dans le monde. Verset 5. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu nous ne s'écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. La première chose que Paul et Paul, Jean nous dit, c'est quoi? Il faut les démasquer. Alors, n'ajoutez pas à la foi tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes, c'est le verset 1, car des faux prophètes sont venus dans le monde. Il y a une certaine personne qui est rentrée un jeudi soir. Il nous a dit à Marcel et moi, l'Esprit Saint m'a ramené ici. C'est Lucien. Et la première chose dans ma tête, c'est comme, c'est exactement ce que et Jean va dire. On va faire une enquête. On va démasquer. On va voir si ce que la personne qui est en face de nous, ce Lucien dit, et ça vient de Dieu ou simplement vient d'une autre personne, du monde ou de Satan lui-même. On a eu un cas, et on était au Mexique avec Marcela, on vivait au Mexique, dans l'église là-bas. Et un jour, une dame rentre et dit, je demande de l'aide parce que j'ai quelque chose sur moi. Et je vois que ça sort. Et on a commencé à parler avec elle. Il dit, bon, est-ce que tu reconnais, comme c'est marqué, que Christ est venu et se fait chair, et que Dieu se fait chair en Jésus-Christ? La personne ne pouvait pas avouer cela. Ne pouvait pas le dire. Pourquoi? Parce qu'il était possédé par nous. On a suivi au pied de la lettre ce qui est écrit. Donc, tester, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Et démasquer, ça veut dire, je connais. Ça veut dire, je prends le temps de venir ici et de dire, ah d'accord, si la personne ne peut pas accepter que Jésus est venu et que Jésus et Christ est être cher, ce n'est pas de Dieu. Parce que c'est plus qu'une connaissance, une connaissance. C'est quelque chose qu'on croit par la foi. Alors, l'esprit de ce monde va, et qui est relayé évidemment par Satan, va apporter confusion, désordre, mensonge et tromperie déguisée. Alors, nous devons faire un travail d'investigation, de voir ce que la personne dit ou vive. Et nous n'est pas seuls. On va plus loin et va dire que l'Esprit de Dieu nous s'est donné. La semaine dernière, on a parlé de ça. L'Esprit de Dieu s'est donné pour nous aider à comprendre. Mais bon, Joël, si j'ai l'Esprit de Dieu, j'ai la parole de Dieu, c'est bon. Oui et non. Pourquoi oui et non? Parce que nous avons besoin de la parole de Dieu qui est vivante, mais aussi d'étudier. Pas simplement la parole de Dieu, mais étudier ce que le monde dit pour pouvoir discerner ce qui est correct. Je ramène simplement 4 des magazines. J'ai plus à la maison. Mais de temps en temps, je vois s'il y a des choses qui sont intéressantes. Et si vous allez, et ça c'est dans le supermarché, c'est pas dans un bar là-bas, d'accord? Donc, Dieu et la science, des textes fondamentaux, Aristote, Descartes, Spinoza, Darwin, et tout ça, le monde écoute tout ça. Et moi, qu'est-ce que je sais par rapport à ça? Quelle est ma conviction là-dedans? Comment je peux répondre à gens qui parlent comme ça? Et là, maintenant, je vous parle comme un étranger. J'ai compris qu'en France, les gens, ils savent beaucoup, ils connaissent beaucoup les choses. Donc, on doit être informé. On doit apprendre davantage pour pouvoir les aider à voir la vérité. Blaise Pascal, l'homme face à l'infini, c'est un poisson français. La science relie la Bible, 2 siècles de découvertes. Ce sont des revues communes, ce ne sont pas des choses compliquées. Les cahiers des sciences de vie, miracles, apparitions et reliques face à la science. C'est ce que le monde lit. C'est ce que le monde voit. Et moi, qu'est-ce que je crois par rapport à tout ça? Est-ce que je crois au miracle? Oui, bien sûr. Mais comment je l'explique? Face à la science. Est-ce que la science est en désaccord avec la Bible? Non, pas du tout. La science valide la Bible. C'est l'inverse. Parce que, ah oui, on a découvert que le soleil tourne autour. On a découvert ça, mais la Bible le sait déjà. voyez? Donc, il n'y a pas une incohérence. Si bien la science, parfois, il y a des choses qui ne sont pas vraies, d'accord? Je ne veux pas rentrer là-dedans parce que c'est un sujet vaste en elle-même. Mais pour démasquer, nous devons faire un travail d'investigation. Et l'Esprit de Dieu nous aide à cela. Et quand un faux prophète ou une personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu vient et nous dit, la première chose qu'on va enlever, c'est notre paix. Pourquoi? Parce qu'ils vont commencer à dire des choses qu'on ne connaît pas, donc on va être attiré par cela, et après une fois qu'on est amorcé là-dedans, il prend tout ce qui vient de la part de Dieu. Et on commence à regarder l'homme et pas Dieu. Et ça, c'est important. La Bible nous dit toujours, il faut regarder Christ. Un homme peut être très bien charismatique, mais est-ce que cela me rapproche de Dieu ou de ma culpabilité? Écoutez, je vais simplement vous lire Galates, dans son église où l'apôtre Paul a écrit, chapitre 1, verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il est un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Verset 8. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui qui nous avons prêché, qu'il soit quoi? Anathème. On maudit. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui qui vous, avez reçu, qu'il soit anathème. Paul, déjà, il disait à une église, à l'église de Galates, où étaient les Galates, attention à ne pas être détourné par le charismatisme ou la facilité du nom des gens. Je l'ai dit la semaine dernière. Aujourd'hui, avec Internet, on est rempli de tous ces gens-là. Mais est-ce que tous les gens-là prennent la Bible et parlent pour nous encourager à venir de plus en plus semblables à Christ? Parce que s'ils ne le font pas, il y a un grand problème. Il y a un problème d'autoproclamation. Regardez, moi. Au lieu de lui. Amen. Paul, dans la version en espagnol, dit, même si moi, j'amène une autre chose, je suis anathème. Dans l'Église de Galates. Donc, il dit, regardez aussi mes enseignements. Parce que Paul dit dans un autre lieu, imitez-moi comme j'imite Christ. Je ne vais pas le dire. Je ne suis pas à ce niveau-là. Mais Paul, qui nous a laissé la plupart des lettres, tout ça pour nous, il dit, attention, faites attention à ne pas être détourné pour quelque chose de plus. Verset 4 dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous l'avez vaincu, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui a cru en Christ comme sauveur personnel et a cru qu'il est Dieu fait chair, son esprit est venu faire sa demeure en nous. Et cela est une preuve d'amour, est aussi un engagement à nous mener toujours vers la vérité. Verset 5, eux, ils sont du monde, et c'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute, évidemment. Ils parlent comme le monde, comme on veut entendre, parce qu'on est citoyen de ce monde. Mais on n'est pas de ce monde. Évidemment, ils vont utiliser toutes sortes de paroles pour nous encourager à venir vers eux. Mais l'Esprit de Dieu nous dit, attention, il ne faut pas tout avaler. Il ne faut pas tout avaler. C'est lui qui est connu de Dieu, disposé à écouter et entendre, et à laisser Dieu travailler. Mais celui qui n'est pas influencé par l'Esprit de Dieu ne va pas écouter. Ne va pas écouter. Et écouter dans le sens d'apprendre. Pas simplement de « Ah, waouh, c'était beau, c'était très bien dit. » L'apôtre Jean nous encourage à démasquer. À démasquer. Verset 7, il nous encourage aussi à quoi? À se démarquer. À se démarquer. Verset 7 du chapitre 4 de Jean, dit ceci. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous savons aimer Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Une évidence de la présence de Dieu dans ma vie, c'est l'amour que nous portons vers l'autre. Mais c'est l'amour que Jésus a porté envers nous. Il a toujours une démonstration d'amour pour pouvoir donner en imitant celui qui nous a aimés. Ici, il n'est pas question de faire pour être vu, sinon de vivre Christ, et cela vient tout seul, car nous l'appartenons. Alors, est-ce que vous avez lu auparavant 1 Corinthiens chapitre 13? Est-ce que vous connaissez de quoi il parle? Évidemment, on utilise beaucoup ces textes-là pour parler de dons de langue. D'accord? Sauf que la grande problématique quand on étudie la parole de Dieu, et il faut, et quand on étudie la parole de Dieu, il y a un moyen de pouvoir la lire dans son contexte. Et si on lit le chapitre avant et le chapitre après, on voit que le thème principal, ce n'est pas les langues, c'est l'amour. Donc, on met quelques versets, parfois on le sort d'un contexte, pour dire des choses qui ne sont pas correctes. Alors, quelques versets simplement. Verset 1 de chapitre 13 de 1 Corinthiens. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou un cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, évidemment, il parle d'une façon allégorique, hyperbole. Donc, il exagère. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, et si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. C'est fort ce qu'il dit. Hein? Verset 4. L'amour est. Donc il commence à donner une définition comment c'est manifeste. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour, ne périt jamais. Verset 13. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alors, en 1 Jean, Jean va nous dire, et bien aimé, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Alors, aimer, c'est donner. Quelqu'un l'a dit, on l'entend parfois partout. Donc, aimer, ça doit sortir de moi. Le type d'amour qui est marqué ici, c'est un amour inconditionnel. Parfois, on dit, je t'aime, mais j'attends un retour. Donc, ce n'est pas inconditionnel. C'est conditionné à que tu me donnes quelque chose. Donc, l'amour que Dieu nous a donné à travers son Fils, car Dieu a tant agapé, aimé. Ou agape, comme vous voulez le dire. Car Dieu a tant aimé inconditionnellement le monde qui a donné son Fils unique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire que Jésus Dieu n'attendait pas que le monde l'aime de retour. Et continue à souffrir. Il a donné, il a fait. Il a donné à ce monde la possibilité, le moyen pour arriver à Christ. Inconditionnellement. Il ne s'est pas demandé de connaître la Bible à 100% avant de le connaître. Il dit simplement, venez à moi. La porte est ouverte toujours. Alors, comment je aime? J'aime comment 1 Corinthiens 13 le marque. Ah là là, j'ai des devoirs à faire. Est-ce que mon amour est sans chercher et mon intérêt, sans mériter, sans soupçonner point le mal? Oh la vache, parfois j'ai du mal. Pourquoi? Parce qu'on est encore pécheur. Il y en a besoin de cet amour que Dieu nous a aimé de façon inconditionnelle. Dieu nous a aimé de telle façon qu'il a donné son Fils. Et il nous bénit. Je vais rectifier quelque chose qui s'était dit quelques semaines auparavant. Dieu nous bénit parce qu'il veut nous bénir. Ce n'est pas conditionné à ce que je fais. Écoutez bien. Dieu nous bénit parce qu'il veut nous bénir. Ce n'est pas conditionné à ce que je fais. Parce que sinon, l'amour de Dieu aussi est conditionné à ce que je fais. Et je n'aime pas mes enfants parce qu'ils font quelque chose pour que je le dis. Je les aime parce que, point. Donc, si Dieu nous a aimés d'une façon comme cela, pourquoi pas moi aussi aimer les autres? Et les autres, ça veut dire mon prochain. Jésus l'a dit, aime ton prochain comme... Normalement, nous, on s'aime inconditionnellement. Si bien parfois, on a du mal à avancer dans la vie dans certains domaines, mais on s'aime inconditionnellement. On ne met pas des barrières pour s'aimer. Mais on met des barrières pour aimer l'autre. L'autre doit me parler de la bonne façon, sinon je ne vais pas répondre. L'autre, il me doit ça, il me doit l'honneur, il me doit ça, sinon je ne vais pas parler. La question que je me pose, c'est marqué dans la Bible. La Bible nous encourage à se démarquer et aller plus loin que cela. Jean nous encourage à quoi? À démasquer cet esprit qui nous va nous empêcher d'aimer notre prochain comme il faut. À nous démarquer en aimant les autres comme Jésus nous a aimés. Mais surtout à quoi? À progresser. Ou à mûrir, à grandir dans la foi. Verset 11. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons, ce n'est pas un choix, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, en sa présence, c'est évident dans notre vie. Et son amour est là, est parfait, il a arrivé à maturité en nous. Parce que la perfection, on va la trouver au ciel. Et son amour est arrivé à maturité en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné son esprit. Donc son esprit nous atteste que nous sommes son enfant de Dieu. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. C'est Jean qui parle parce qu'il a vu tout droit à Jésus. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, et Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous, ils avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Tel nous sommes aussi dans ce monde. Et tout dans cela est... Pardon, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour. Attendez, je vais arriver là parce qu'il faut expliquer ce verset-là. Tel il est, donc on doit ressembler à Christ, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait, on s'est manifesté, on mûrit d'une façon en nous, afin que afin que nous ayons de l'assurance le jour du jugement. Alors, attention. Attention, quand on parle de jugement, c'est un mot assez dur et c'est fort. Alors, quand on parle de jugement, ici, Jean ne parle pas d'un jugement de condamnation, parce qu'on n'est plus, on n'est plus condamné. Mais si vous vous souvenez du chapitre 2, quelques pages auparavant, ou quelques semaines, ça fait 3 semaines auparavant, vous pouvez le réécouter, il parle d'un tribunal de Christ. Il nous parle qu'un jour, qu'on va, l'Église, nous, on va être pris vers le ciel, il y aura un moment où Dieu va passer en revue toutes les choses que j'ai faites sur terre. Il y a certaines choses qui vont être brûlées parce que c'était fait sans vraiment l'intention divine, sans vraiment l'intention de plaire Christ. Et tout cela va être brûlé. Et je ne pense pas qu'on va le voir brûler. D'accord? Je pense que simplement le regard de Christ, comme c'est marqué dans Apocalypse 1, le regard de Christ, c'est comme des feux, c'est sûr, comme des feux. Il va voir directement tout dans notre vie. Et on verra quelles sont les choses qu'on a fait ici sur terre qui auront une récompense, voilà le mot, une récompense éternelle. Alors, quelles sont les récompenses éternelles? Donc, aimer mon prochain. Aimer mon prochain. Pourquoi? Parce que j'accomplis la loi de Christ. Aime ton Dieu avec tout ton être, aime ton prochain comme toi-même. C'est la loi de Christ. C'est pas les 10 commandements, c'est simplement 2. Et là, est-ce que je vais arriver devant Christ? Est-ce que j'aurai de l'assurance? Oui. J'ai mis tout mon effort pour cela. Pour aimer mon prochain, même si c'était difficile. Pour aimer mon mari, ou aimer ma femme, ou mon collègue de travail, qui m'embêtait souvent, qui était casse-pied. Verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, ou la peur. La peur n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la peur, ou la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait, n'est pas mûri dans l'amour. Attention, crainte, il y a une double signification. Crainte, ça peut être peur aussi. Alors, je ne peux pas avoir peur. Si, quand Dieu m'a aimé, il m'a enlevé la crainte de la condamnation, la peur de la condamnation. Et cela, ce que parle Jean. Donc, la peur, si on change simplement pour peur, parce que c'est un autre synonyme, la peur n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la peur. Car la crainte suppose un châtiment. Quel châtiment? La condamnation éternelle. Et celui qui craint, celui qui a peur, n'est pas parfait, n'est pas mûri dans cet amour. Donc, soit je ne connais pas Dieu, ou soit je le connais. Quand on dit j'aime quelqu'un, je n'ai pas peur de dire je l'aime. Parce que je considère que côté j'aime, c'est Dieu m'a aimé tel que je suis, avec tout ce que j'ai. Et je n'ai pas à dire j'aime quelqu'un avec tout ce que j'ai. Quand une personne qui rentre par cette porte ici dans ce bâtiment, il dit je crois que je suis né homme, physique, biologiquement, mais je me crois une femme. La Bible dit aime ton prochain. Comment je vais l'aimer? Je peux l'aimer par. Si, je peux faire deux choses. Soit je mets une barrière directement. De façon externe, je peux montrer que tout va bien. Est-ce que je veux m'approcher de lui? Pour lui dire comment vas-tu? On ne te juge pas. Dieu t'aime tel que tu es. Et celui qui va faire le travail, c'est pas mon charisme, c'est l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi on encourage les gens à connaître Christ en premier pour que l'Esprit de Dieu puisse faire un travail dans leur vie. Mais comment j'aime ces personnes-là? Verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Parfois, on vient à nos enfants. Je t'aime, et après les enfants, je t'aime. Mais nous avons aimé nos enfants en premier, avant qu'ils naissent. Ils n'étaient pas nés, ils les aimaient déjà. Nous étions pas nés. Et Dieu existait déjà. Il est là depuis toute l'éternité. Il nous a aimés en premier, en Christ. Il n'y a pas plus grand amour que c'était celle de Dieu. Il nous a aimés en premier. Donc s'il nous a aimés en premier, c'est quelqu'un qui dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne le voit pas? C'est une simple logique. Simple logique. Verset 21. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu, qui aime aussi son frère. Point. Il jette le pavé. Pouh. C'est pas compliqué, c'est simple, mais c'est profond. Si nous disons j'aime Dieu, je dois manifester un amour pour mon frère et ma soeur en Christ. Je ne peux pas aimer mon frère et ma soeur en Christ sans aimer Dieu. C'est impossible. Parce que sinon, c'est un amour humain. Ce n'est pas un amour qui vient du ciel à travers nous. La peur m'éloigne de la grâce de Dieu. La peur me fait vivre sous une constante réflexion de condamnation. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis un enfant de Dieu. Et par conséquent, je peux vivre et expérimenter l'amour de Dieu dans ma vie et exprimer et l'exprimer envers les autres. Dieu nous a aimés en premier. Ce que la Bible dit, Jean 13. Mes petits enfants, c'est Jésus qui parle. Je suis pour peu de temps parce qu'encore avec vous. Vous me chercherez et, comme je l'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où j'y vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, comment il nous a aimés, inconditionnellement. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes quoi? Mes disciples. Si vous avez de l'amour, les uns pour les autres. Comment cela se manifeste? L'Esprit Saint va vous montrer comment le manifester. En patience, avec des mots qui aident au lieu de faire plus compliquer la situation. En apportant une aide pratique, comme on l'a fait, tout cela, ça manifeste ce que j'ai à l'intérieur. Mais c'est plus qu'avoir de la bonne volonté. Je dis, Seigneur, tu m'encourages à progresser, à mûrir dans ma foi. Est-ce que je veux mûrir ou si je veux rester comme toujours? Je veux progresser ou je veux rester de où je suis aujourd'hui? Nous sommes encouragés, pas démotivés. Ce matin, ce que Dieu cherche, c'est que nous soyons attentifs, réveillés et éveillés et prêts à progresser dans nos vies avec lui. Parce que sans lui, nous pouvons rien faire. Rien faire. Mes amis, nous sommes encouragés. Et l'encouragement, ce n'est pas simplement pour dire « Ah, c'était bien. Il faut que je le mette de côté pendant la semaine et après je l'oublie. » C'est vraiment une pratique tous les jours. Chez nous, au boulot, et avec ma relation avec Dieu lui-même. Prions ensemble.